On vient donc de voir ensemble que l'Église est comme un corps, qu'elle est constituée de membres, tous différents, mais qu'elle forme une unité. Une unité dont le but est de rendre visible, d'obéir, de rendre gloire à Christ, le chef, la tête. On va lire maintenant un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens et on va voir ce que cela veut dire de vivre comme un corps. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, et d'autres des pasteurs et enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Comment fonctionne le corps du Christ? Eh bien, il fonctionne d'abord et avant tout parce que le Christ a fait des cadeaux. Et on va commencer par ce premier point. Jésus offre des cadeaux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau qui ne plaît pas. Je suppose que ça arrive de temps en temps. Moi, ça, nous, avec Bénédicte, ça nous arrivait un peu plus régulièrement quand les enfants étaient en bas âge. Vous savez, on prévoit quelque chose pour eux, on l'emballe, et puis en fait, ça tombe à plat, ils ne s'y intéressent pas du tout, et ils finissent par jouer plus avec l'emballage ou le ruban. Ça, c'est des choses qui nous sont arrivées. Si je vous raconte ça, c'est parce que sur Terre, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Jésus. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne saisissent pas le cadeau qui est à leur portée. Et ça, c'est pourtant le cadeau suprême que Jésus nous offre. Ce cadeau suprême, c'est sa mort sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Sa mort sur la croix pour qu'on soit réconcilié avec Dieu comme Père. Être pardonné de nos fautes. Et puis pourtant, il y a tant de personnes qui passent à côté de ce cadeau suprême, tant de personnes qui s'intéressent plus à l'emballage ou qui discutent plutôt du ruban, plutôt que de se saisir à pleine main du cadeau offert par Jésus. Alors ce cadeau suprême, on ne l'a pas lu dans le passage ensemble, mais c'est tout l'objet de la lettre de Paul aux Éphésiens qui nous parle de ce cadeau suprême. Et dans notre passage en particulier, il nous parle de, non pas du cadeau suprême, mais de cadeaux bien spécifiques que Christ ajoute en plus. Verset 7. Donc vous voyez, c'est Christ est bon, il nous offre la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu comme Père, le cadeau suprême. Mais en plus, il nous fait d'autres plus petits cadeaux. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Je ne sais pas si vous étiez familier de ça. Est-ce que vous saviez que le Christ vous avait offert au moins un cadeau à chacun? Et je dis bien au moins un. Parce que j'ai peur que souvent on fasse un peu comme, vous savez, quand vous allez courir alors que ça fait 3 mois que vous n'êtes pas entraîné, et le lendemain, eh bien, ça ne coupe pas, vous avez mal partout, et vous découvrez des muscles que vous ne pensiez même pas avoir. Vrai ça? Ça arrive, non? Okay. Eh bien, est-ce que ce n'est pas pareil aussi? avec Christ. Il nous a tous fait des cadeaux. Parfois, on peine à savoir lesquels, mais il nous a fait des cadeaux. Et c'est souvent les autres dans l'Église qui nous aident à percevoir les dons que nous avons reçus de Christ et à les mettre en œuvre. Alors, on est tous différents. On n'a pas tous reçu les mêmes dons. Et parfois, on est atteint d'un syndrome de comparaison aiguë. Vous savez, là où on se compare les uns aux autres et on se met un peu à se jalouser les uns les autres. On voudrait avoir un don que les autres ont parce qu'on le trouve prodigieux, mais on ne l'a pas. Et puis, voilà, on peut être un peu aigri. On se plaint si on pense ne pas en avoir. Alors qu'en fait, on devrait juste se réjouir. Se réjouir parce que Dieu a un plan et c'est lui qui donne en fonction du plan qu'il souhaite accomplir. Et on a tous une place dans ce plan de Dieu. Alors je voudrais vous donner un exemple. Pour ma part, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare. Et j'ai pris quelques cours les années passées. Je gratouille un peu. Mais force est de constater que je n'ai pas franchement le don de la guitare. Et donc, je suis obligé de prendre sur moi pour ne pas envier les brillants guitaristes de notre communauté. Ma femme pourra en témoigner. Et il me faut accepter ce constat que je n'ai pas le don de la guitare. Il me faut accepter de bosser beaucoup pour progresser un peu, un tout petit peu. Peut-être que de temps en temps, vous me verrez jouer. Mais je vous garantis que le jour où je jouerai, il y aura un autre guitariste avec moi et que ça sera lui qui fera la voix principale. Voilà. Hors de question que je puisse diriger la louange à partir de la guitare. C'est pas envisageable pour moi. Et plutôt que de jalouser les guitaristes, eh bien, j'apprends à louer Dieu qui nous a donné d'excellents guitaristes à notre communauté. Des dons. Jésus-Christ offre des cadeaux. En plus du cadeau suprême, il a donné au moins un don à chacun d'entre nous. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Christ a accordé ces dons ? Réponse qui est dans le texte. Pour la croissance de l'Église. Pourquoi avoir offert des dons ? Pour que l'Église puisse croître. Et donc, on comprend que ces dons qu'il nous a donnés, ce n'est pas juste pour notre épanouissement personnel. C'est pour la croissance de l'Église. C'est pour que son Église se construise et qu'elle grandisse. Alors, il a donné des ministères un peu particuliers. Verset 11, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs enseignants. À quoi ça sert, tous ces différents dons ? Alors, les premiers, on les comprend assez facilement. Les apôtres, les prophètes, on comprend tout à fait le rôle qu'ils jouent ou qu'ils ont joué pour la croissance de l'Église. Les apôtres, les prophètes, ils ont mis par écrit les paroles de Dieu. Et c'est la Bible qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui. Et donc on comprend leur utilité et leur importance pour la croissance de l'Église. On comprend aussi l'importance des évangélistes pour la croissance de l'Église. Ce sont celles et ceux qui parlent ouvertement de leur foi, qui annoncent en public la parole de Dieu. Et donc l'Église croît de cette façon-là, l'Église grandit de cette façon-là. Alors on comprend un peu plus difficilement le rôle des pasteurs et des enseignants. Et j'aimerais faire un petit point là-dessus, d'autant plus que ça me concerne de premier chef. En fait, en grec, c'est le même groupe de mots. Pasteur et enseignant, ce n'est pas deux personnes particulières. Dans la grammaire du grec, qui est l'original du texte, pasteur-enseignant, c'est la même personne qui est décrite. Alors, pour y voir un peu plus clair sur les pasteurs et les enseignants, je me suis basé sur un sondage qu'a effectué un ami qui est pasteur de notre union d'église, qui s'appelle Christian Huy, il est pasteur à Nîmes, dans l'église libre de Nîmes. Et un jour, lors d'un culte, il a voulu sonder son église sur ce qu'il pensait être le rôle du pasteur. Et donc, il a fait toute une liste de tâches, et il a demandé aux gens de cocher dans leur tête ce qu'ils pensaient être comme des tâches nécessaires que devait accomplir le pasteur. Alors, je vous propose qu'on le fasse ensemble, cet exercice aussi. Je vais vous faire circuler la liste des tâches que Christian Huy a proposé à son église, et faites ce travail dans votre tête. Est-ce que telle tâche est obligatoire pour le pasteur ? Ok ? On y va ? Est-ce que le pasteur doit célébrer des mariages, des baptêmes ou des enterrements. Faire les prédications, faire de l'évangélisation, mener des études bibliques, doit visiter des personnes âgées et malades, doit conduire des réunions de prière, doit faire de l'accompagnement spirituel, doit accueillir chez lui, hospitalité, doit animer les cultes, doit enseigner les adolescents, doit s'impliquer au niveau régional ou national, doit participer aux différents comités, participer au pastoral, participer aux échanges écuméniques, faire de la publicité pour l'Église, organiser des événements, s'impliquer dans la vie du quartier, faire le ménage, faire le travail administratif qu'il a à faire, répondre aux différentes sollicitations extérieures, lire la Bible et prier pour sa propre relation avec Dieu, lire la Bible et prier avec sa femme et ses enfants. Je ne sais pas ce que vous avez coché dans votre tête. Ok. Vous comprenez bien le problème sur lequel on tombe vite quand on parle de ministère pastoral. Et j'ai un autre collègue et pasteur qui est... Alors, il s'appelle Xavier Luckins. Il était pasteur à Viry-Châtillon, à Paris. Et un jour, un de ses paroissiens était tombé en panne sur l'autoroute. Et plutôt que d'appeler son dépanneur, l'avait appelé lui pour venir l'aider. Alors vous voyez l'étendue des difficultés du ministère pastoral. C'est quoi le rôle d'un pasteur dans tout ça? Eh bien en fait, le rôle d'un pasteur, on l'a ici dans ce texte. Merci Paul. C'est le Christ qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, et d'autres des pasteurs et enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Je rends grâce à Dieu pour ces paroles de l'apôtre Paul. Le rôle de toutes ces personnes, ce n'est pas de tout faire dans l'Église. Le rôle de ces personnes, c'est de rendre aptes, vous tous, les autres, à accomplir le travail. Donc en fait, c'est vous qui allez bosser, nous on va juste vous former, et puis c'est vous qui allez y aller. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui nous dit Paul. C'est comme ça que ça devrait se passer en tout cas. Le rôle de toutes ces personnes, c'est en effet de former les autres membres de l'Église à servir chacun en fonction de ses dons. Et ça, c'est un rôle plutôt de formation. Lorsque les pasteurs enseignent la parole de Dieu, eh bien, ils encouragent, ils exhortent, ils forment pour que les chrétiens puissent eux-mêmes se mettre au service de Dieu, avec leurs dons. Et un peu plus loin, au verset 16, Paul utilise un mot clé, qui peut nous aider à comprendre un peu, dans l'image du corps, à quoi ressemblent les pasteurs et les enseignants, et les conseils d'église, et les responsables d'activité. Il les compare à des articulations. Ces gens-là sont des articulations, comme dans un corps, pour que tous les membres puissent bien fonctionner, en fonction de leurs dons. Et donc, dans une église... Qui occupe ce rôle de pasteur-enseignant? Ce n'est pas moi, c'est le conseil dans sa globalité, et plus largement que le conseil, tous les responsables d'activité, comme je le disais il y a quelques instants. C'est leur rôle à tous de discerner les dons des gens qui leur ont été confiés. C'est leur rôle de former, d'enseigner, pour que chacun puisse se mettre au service et que, ensemble, le corps puisse croître. Alors je voudrais vous donner un exemple musical, changer un peu de domaine. Je sais qu'il y a plein de musiciens, alors je vais prendre le pari que rien qu'en vous montrant la partition, certains d'entre vous pourraient deviner quel en est le morceau. Je mets sur la piste, c'est l'un des morceaux de musique classique les plus connus au monde, et c'est l'un des chefs-d'œuvre de la musique classique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'oreille parfaite, qui sont capables de chanter ces notes-là rien qu'en les voyant écrites, mais vous voyez que c'est un morceau, je mets sur la piste d'autres choses. C'est un morceau qui dure 15 minutes, il est hyper long. Et vous voyez que pourtant, la partition tient en 4 lignes. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un saurait chanter, se mettre debout et chanter ces quelques... Ok. Alors j'ai pris un peu les devants, j'ai filé la partition à Mathieu tout à l'heure, et il va nous la jouer, cette partie. Mathieu, je te vois pas, oui. Tiens, je te la rends. Thank you. Vous connaissez, visiblement. Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir fait ça au pied levé en plus. Donc les oreilles qui connaissent ce morceau ont reconnu le boléro de Ravel. Et je vous encourage, à la fin du culte, de venir regarder la partition. Normalement, si vous avez déjà assisté à un morceau de musique classique, vous voyez le chef d'orchestre tourner les pages sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les partitions sont épaisses comme ça, c'est impressionnant. La partition du boléro, elle tient en une page. Le thème a 4 lignes. Un thème B, 4 autres lignes, et une ritournelle. Trois chants particuliers, donc 3 petits morceaux particuliers, et que le génie de Maurice Ravel a fait alterner d'abord la ritournelle avec le tambour qui commence à marteler le rythme, et ensuite eh ben, le thème A, puis la ritournelle à nouveau, et le thème B, et ensuite ça n'arrête pas de se répondre. Et le génie de Ravel, c'est vraiment ça, c'est d'avoir fait participer l'orchestre entier. Ça commence par... Alors j'ai noté l'ordre. Ça commence par la flûte, juste la flûte. Ensuite la clarinette, le basson, la petite clarinette, le hautbois d'amour, la trompette avec sourdine, la flûte à l'octave, le saxophone ténor, et ainsi de suite. Et tous les instruments de l'orchestre y passent. Et il n'y a pas de plus beau morceau pour se rendre compte qu'un orchestre agit comme un corps, et que chaque instrument a sa place, et si un instrument manquait, le boléro de Ravel ne serait pas le même. Et quel est le rôle, en tout, du chef d'orchestre ? Eh bien, c'est permettre à chacun des instruments de s'épanouir et de trouver sa place dans ce morceau. L'Église, c'est censé fonctionner exactement pareil. Le conseil et les responsables d'activité devant être là pour que chaque membre puisse trouver sa place, s'épanouir et travailler à la croissance de l'Église. Donc il a donné des dons, si je résume, Christ a donné des dons, généreusement. Pourquoi ? Pour la croissance de l'Église. Alors quand on parle de croissance, on pense tout de suite à plus de monde, du nombre. Mais pas que. Vous allez voir que dans ce passage, on a la preuve qu'il s'agit aussi, et peut-être même avant tout, d'une croissance en maturité, d'une croissance spirituelle pour chacun des membres du corps. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On va relire les versets 13 à 15. De cette façon... nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. Christ a fait des dons pour la croissance de l'Église et pour la maturité de tous. Alors cette maturité, on va souligner quelques points essentiels de cette maturité. C'est avant tout une maturité qui doit nous permettre de passer de enfant à adulte, exactement comme dans un corps, vous voyez. Nous deviendrons quoi ? Des adultes. Alors que nous étions quoi ? Nous ne serons plus des enfants. Le but de tout ça dans une église, c'est aussi de grandir en maturité, de passer du stade d'enfant à adulte. Et rien de moins qu'à pour atteindre au final la stature parfaite du Christ. Alors je ne sais pas vous, mais si moi je dois atteindre un jour la stature parfaite du Christ, eh bien je vous garantis qu'il y a encore du boulot. Mais un jour, très certainement au jour de notre mort, Dieu complétera cette sanctification qui effera de nous des personnes à la stature parfaite du Christ. Mais pour le moment, sur terre, pour chacun d'entre nous, il y a du travail. Et là, heureusement que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous aide à déraciner les idoles de notre cœur. Ces idoles qui veulent prendre la place de Dieu au fond de notre cœur. Et à la place, Dieu y plante son amour. Et ça prend du temps, ça prend toute une vie de déraciner les idoles et de planter l'amour de Dieu à la place. C'est le travail de l'Esprit-Saint en nous, ça s'appelle la sanctification. Et cette démarche de progrès, elle n'est pas qu'une démarche individuelle, parce que lorsque la parole de Dieu est annoncée à tous, eh bien ça débouche, verset 13, sur l'unité de la foi. En haut, l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Non, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis en jaune, j'aurais dû. Ensemble, on apprend à mieux connaître Jésus-Christ. Et cela nous unit. C'est bien Christ qui nous unit. La même foi en Christ. Et on progresse ensemble avec le même désir de lui ressembler. On gagne tous en maturité. Un autre aspect de cette maturité, c'est que c'est une maturité qui doit nous rendre capables de résister aux fausses doctrines et aux erreurs. Nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. C'est quoi ces faux enseignements et ces fausses doctrines qui pourraient nous déstabiliser aujourd'hui? Des choses qui pourraient nous déstabiliser aujourd'hui, il y en a tant et plus. Le monde en regorge. Mais j'aimerais vous en donner trois. Et pourquoi ces trois? Je vais me justifier juste après. J'ai essayé de les sortir de l'actualité. Ces courants extérieurs ou ces mouvements extérieurs qui pourraient nous déstabiliser, nous, en tant que chrétiens. Le mouvement des Gilets jaunes, il a fait remonter une question légitime ces derniers temps, ces derniers mois. Il a fait remonter la question légitime de la justice sociale. Et ça, c'est tout à fait légitime. On devrait pouvoir vivre décemment de son travail, plutôt que de constater que ce sont toujours les plus riches qui s'enrichissent le plus et les plus pauvres qui continuent à s'enfoncer dans la pauvreté. On devrait pouvoir vivre décemment de son travail. Mais toutes ces histoires de gilets jaunes ont fait aussi remonter la question de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et j'y vois là aussi probablement la tentation du matérialisme à laquelle nous devons prêter attention et continuer à prêter attention. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'augmentation de notre pouvoir d'achat qui va régler notre problème, notre soif de toujours plus. Nous sommes comme ça. Nous aspirons à avoir toujours plus quand on a. Et il y a là un danger. Il n'y a que Dieu qui peut stopper en nous cette soif de toujours plus et étancher notre cœur. Ça, c'était le premier exemple d'influence extérieure. Le deuxième exemple d'influence extérieure que j'aimerais citer, c'est l'hypersexualisation de notre société aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, la société nous fait croire qu'on peut faire ce qu'on veut de notre sexualité et que ça ne prêtera pas à conséquence dans notre vie. Ça aussi, c'est quelque chose de faux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre sexualité sans le payer un jour ou l'autre. Dieu, dans sa parole, nous rappelle que la sexualité, ça relève de l'intimité du mariage entre un homme et une femme, et que, d'une certaine façon, toute autre façon de vivre notre sexualité portera préjudice un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou pas. Et la dernière influence extérieure qui pourrait nous déstabiliser et nous entraîner dans l'erreur, c'est, je dirais, l'attrait du pouvoir, l'attrait de la gloire. Et ça, c'est aussi l'individualisme galopant de notre société qui nous pousse là-dedans. L'individualisme, il nous dit qu'on doit vivre pour nous-mêmes, juste pour nous, égoïstement, et qu'il n'y a que ça qui compte, que la seule chose qui est importante dans notre vie, c'est notre épanouissement personnel. Et ça, c'est aussi une grande tentation pour chacun d'entre nous. À l'inverse, dans sa parole, eh bien, Dieu nous encourage plutôt à l'humilité. Il nous encourage à développer aussi une vision de groupe où chacun trouvera sa place dans ce corps qu'est l'Église. Ça aussi, les Gilets jaunes l'ont redécouvert. Les Gilets jaunes, sur les ronds-points, ils ont redécouvert la fraternité. Il y en a même, j'ai vu ça le 1er janvier, il y en a même qui ont réveillonné la veille, le 31. Ils ne se connaissaient pas quelques semaines avant. Ils ont appris à se connaître autour des ronds-points et ils ont apprécié redécouvrir la fraternité autour de ces ronds-points. Ben ça fait 2000 ans que l'Église, elle le vit déjà. tentation de l'individualisme. Alors des erreurs, des faux enseignements qui circulent à travers le monde, il y en a tant et plus. Pourquoi vous donner ces trois-là ce matin ? Ben parce qu'il me semble que depuis toujours, la Bible nous alerte sur ces trois domaines-là. L'attrait de l'argent, la question de la sexualité et de la gloire, du pouvoir, de l'individu. Pour preuve, dès le livre du Deutéronome, l'un des premiers livres de la Bible, je vais vous lire ce que Dieu demandait à son peuple. Un jour, il allait y avoir un roi, et Dieu dit ça. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie. La cavalerie, à l'époque, c'était le pouvoir de l'armée. Le roi, qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes pour qu'il ne se corrompe pas. Sexualité. Qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Depuis l'un des premiers livres de la Bible, Dieu nous alerte sur ces trois tentations-là. Et ces choses, elles ne sont pas mauvaises ni dangereuses en elles-mêmes. C'est juste qu'elles risquent de prendre trop de place dans notre cœur et d'éjecter Dieu de notre cœur. Et en plus, lorsqu'elles sont mal utilisées, elles peuvent faire des ravages dans notre vie et dans notre société. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ben, régulièrement, on se rappelle ces dangers qui existent pour que nous gagnions tous en maturité, que nous progressions sur ces domaines-là notamment, et que donc nous ne soyons plus comme des enfants, comme nous dit Paul ici, que nous ne soyons plus comme des enfants livrés à eux-mêmes ou que des enfants qui tomberaient dans l'eau et qui se noieraient dans les vagues du monde. Qu'on ne soit plus ballotté et emporté par les vagues, mais qu'on ait une assise et qu'on sache ce qui est bien pour nous. On était là sur ce point-là d'une maturité capable de résister aux fausses doctrines et aux erreurs du monde. Et enfin, cette maturité, elle est liée, un dernier point, à la proclamation de la vérité avec amour. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ. Cette vérité qu'il nous faut proclamer, on l'a déjà proclamée à plusieurs reprises pendant ce culte. Cette vérité qu'il nous faut proclamer, c'est celle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort à notre place sur la croix pour nous sauver. Et cette vérité, elle nous fait mal à chacun parce qu'en fait, elle nous renvoie vers nos fautes. Si Christ a dû mourir sur une croix pour nous sauver, c'est qu'on a tous commis des fautes. On a tous des idoles au fond de notre cœur et on a tous éjecté Dieu de la place qu'il méritait. Et donc, cette vérité, elle nous fait mal parce qu'elle nous renvoie à la repentance nécessaire que nous devons avoir pour nous tourner vers Dieu. Lui demander pardon pour revenir vers lui. Et Paul, il le fait avec sensibilité ici. Il nous dit de proclamer cette vérité, comment ? Avec amour. Parce que avec cette vérité, on pourrait tous se briser mutuellement les uns les autres. On a tous commis des fautes. On pourrait tous nous faire du mal à partir de ces fautes qui nous sont personnelles. Et le Christ nous demande non pas de nous demande non pas de nous asséner cette vérité comme à coup de gourdin, mais nous demande de la proclamer avec amour et de laisser du temps à chacun pour que chacun puisse progresser dans les failles qui sont les siennes. Et au verset 16, Paul enfonce le clou en écrivant que lorsque tout ça fonctionne bien, eh bien, le corps entier grandit et se développe comment ? Par l'amour. C'est bien en partie et en très grande partie l'amour que nous nous porterons mutuellement qui nous permettra de grandir, chacun d'entre nous. Le corps grandit par l'amour. Et lorsque les articulations sont bien en place, lorsque les croyants sont formés par la parole, lorsque les croyants mettent leurs dons au service de la parole de Dieu, lorsqu'ils le font avec amour, avec fraternité, avec respect de l'autre, eh bien le corps grandit, il grandit en maturité. Voilà donc tout ce que la parole de Dieu accomplit en nous pour nous conduire à une plus grande maturité. Je voudrais conclure maintenant. Christ nous a fait des cadeaux, des dons. Pourquoi ? Eh bien, pour la croissance de l'Église, son corps. Et que ça doit contribuer à quoi ? À la maturité de chacun. Alors ma prière pour nous tous ce matin, c'est que la parole de Dieu continue à être le centre de toutes nos activités. Qu'on puisse tous être formés par la parole de Dieu pour être des chrétiens, des croyants stables, affermis dans notre foi. La parole de Dieu est puissante, elle nous transforme. Que nous puissions tous aussi utiliser nos dons au service de l'Église. Et donc, je voudrais vous dire que si vous ne faites pas encore quelque chose, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ignorent leurs dons. Ben, si c'est le cas, venez nous voir. Venez, vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir en parler aussi à n'importe quel membre du conseil ou à d'autres responsables d'activité. Si vous ne savez pas encore quoi faire de vos dons, si vous ne les connaissez pas encore, venez nous voir. On prendra votre demande au sérieux. Et on essaiera de réfléchir avec vous sur quels sont vos dons et comment vous pourriez les mettre au service du Seigneur pour la croissance du corps et pour la maturité de chacun. Amen.